Mesdames et messieurs, avancez s'il vous plaît. L'histoire va vous parler.
L'historien Sanjay Subramaniam.
À New Delhi, en présence du pandit Nehru, Lord Louis Mountbatten, dernier vice-roi des Indes, a remis ses pouvoirs au nouveau gouverneur général, Rajagopalachari. C'est donc aux mains d'un Indien de pure race qu'est pour la première fois depuis 200 ans confié le gouvernement de l'Inde. Acclamé par une foule de plus de 6000 personnes, Lord et Lady Mountbatten, dont le dévouement et la simplicité surgagnaient l'estime de toute la population indienne, ont quitté cette terre des Indes qui, après plus de deux siècles de lutte, vient d'acquérir son indépendance totale.
C'est bien après l'indépendance en 1961 que naît Sanjay Subramaniam. Il appartient à une génération et à un courant d'intellectuels post-nationalistes. Il enseigne un peu partout, donne des cours en Californie, UCLA, à Paris, au Collège de France, et des conférences aussi bien en Israël, au Royaume-Uni et dans d'autres pays. Le sujet de ses enseignements, c'est la première modernité, 16e siècle, 17e siècle. Et dans la première modernité, les échanges et les connexions entre les espaces économiques et culturels avec une dilection pour les zones maritimes et les diasporas de marchands. Ces années-ci, les Français en Inde au XVIIe siècle sont ainsi à leur tour entrés dans son champ de réflexion. Sanjay Subramaniam aurait pu être un excellent critique littéraire. Dans ce domaine, il a produit des textes qui tranchent tant il s'intéresse uniquement à la qualité littéraire en soi sans se préoccuper des convenances idéologiques ou mondaines. Quel que soit le domaine où il intervienne, Sanjay Subramaniam incarne une manière d'être indien qui n'est pas nécessairement anti-européenne, une manière d'être moderne qui n'est pas nécessairement occidentale et une manière de vivre entre différents mondes en diaspora qui n'est pas nécessairement malheureuse.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Sanjay Subramaniam, bonjour.
Bonjour.
Encore un nouveau livre grâce aux éditions Alma qui avait publié entre autres votre Vasco de Gama, Leçon indienne, itinéraire d'un historien. Alors, le point de départ de vos itinéraires, un milieu de fonctionnaires.
Voilà, donc je viens d'une famille où je suis... Déjà, mon grand-père était fonctionnaire, un de mes deux grands-pères. Il a travaillé dans l'administration tout d'abord coloniale, puis au milieu de sa carrière, il y a eu cette transition qu'on vient d'évoquer quand les Britanniques sont partis et l'Inde indépendante a vu donc le règne, pour ainsi dire, de Nehru, qui a été Premier ministre pendant 17 ans. Et mon grand-père, en fait, a eu des relations relativement proches avec Nehru. Il a travaillé pour lui. Mais mon grand-père a toujours gardé une certaine ambiguïté envers cette question de l'indépendance.
Il était loyal, dites-vous dans votre livre, envers les hommes blancs.
Voilà, mais en même temps, il a accepté que leur temps était fini. Puis il a aussi pas forcément apprécié la manière dont l'Angleterre même a évolué dans les années 50 et 60. Mais il y avait une distinction que j'ai évoquée aussi dans ce livre entre sa génération à lui et la génération de mon père. Mon père étant farouchement nationaliste et lui, il a quand même servi l'Inde indépendante, par exemple dans les domaines de la défense ou de la stratégie.
Sans état d'armes.
Sans état d'armes, oui.
Il a œuvré notamment pour la reconstruction de l'armée indienne après sa défaite face à la Chine au début des années 60. Nehru meurt en 1964, et c'est en 1966 que se situe le reportage que nous allons entendre. 5 colonnes à la une, grande émission de télévision. Vous ne connaissiez pas, vous avez 5 ans à l'époque, Sanjay Subramaniam. Edward Baer, journaliste britannique qui avait servi dans l'armée anglaise en Inde, retourne sur place. Que la colonisation ait été un traumatisme n'empêche pas qu'elle a laissé un héritage.
C'est l'armée de l'Inde qui s'est faite la gardienne la plus fidèle des traditions anglaises. Nous sommes ici à Lansdowne, à 400 km à peine de la frontière tibétaine, au centre de mon ancien régiment, les Garhwal Rifles. L'armée s'est modernisée en partie, mais l'instruction de base reste calquée sur les vieilles méthodes anglaises. Dans l'armée de l'Inde, le sport tient encore plus de place qu'en Angleterre. La boxe est obligatoire dans l'école des officiers cadets de Pune. On apprend, dit le commandant de l'école, à recevoir des coups et à en donner stoïquement à l'anglaise. Les récalcitrants sont impitoyablement renvoyés. L'équitation aussi est obligatoire, bien que ces exercices de lancier du Bengale n'aient plus qu'un intérêt sportif. L'équitation, selon les instructeurs, forme le caractère. Il y a même une chasse à cour ici, spécialement pour les élèves officiers.
Caricatural, Sanjay Subramaniam, ou sensible, ce reportage?
Non, en fait, moi je connais un peu ce milieu de l'armée indienne. J'ai eu un oncle dans l'armée de l'air. Et je dirais que c'est vrai qu'ils ont gardé beaucoup de choses venant de l'Angleterre. Puis, il y a aussi eu des changements pour des raisons évidentes. Vous savez qu'il y a aussi, disons, la déception indienne envers l'Occident pendant les années 50-60. Et je pense que, par exemple, les gens qui ont été formés dans les années 70 ou 80 auraient peut-être aussi eu l'influence de l'Union soviétique. Parce qu'il y a des gens, par exemple, dans l'armée de l'air ou dans la marine qui sont allés faire leur formation avec les soviétiques. C'est tout à fait une autre tradition.
Si on élargit, vous osez dire que l'histoire de l'Inde contemporaine, c'est un peu une coproduction indo-britannique. Tandis que dans le courant qu'incarne, par exemple, le Premier ministre dont vous ne voulez pas parler, on aurait plutôt tendance à expliquer qu'il y avait une Inde éternelle qui existe au moins, en tout cas depuis 500 après le début de notre ère, et qui aurait subi un traumatisme de la part de la colonisation et qui aurait ressurgi.
Oui, non, en fait, selon cette tendance, il y a même deux traumatismes. Tout d'abord, le traumatisme, selon eux, causé par l'arrivée des musulmans. Et puis, deuxième traumatisme causé par la conquête britannique du XVIIIe siècle. Et donc, c'est vrai que dans un certain nombre de textes écrits par ces gens du parti de droite et leurs adhérents, on trouve cette idée, par exemple, qu'il faut donc faire marche en arrière vers une Inde qui n'a jamais existé, une Inde mythique. Par exemple, il y a quelques mois, dans un très très grand congrès de sciences, il y a des gens qui sont venus déclarer que, par exemple, les Indiens avaient inventé l'avion il y a 2000 ou il y a 3000 ans. Et là, d'un côté, il y avait des gens, par exemple, des scientifiques indiens qui ont dit qu'ils avaient honte face à cette espèce d'absurdité, et d'autres qui ont essayé de mettre un peu d'eau dans leur vin scientifique, si on ose dire, pour s'accommoder à ce genre de changement dans la politique. Mais vous voyez qu'en fait, il y a donc une espèce de recherche dans les mythes anciens, mais aussi des mythes modernes qu'on est en train de construire pour créer l'image d'une Inde, donc, chic, qui n'a jamais eu besoin de savoir venant d'ailleurs.
Mais vous en venez à dire que quand on parle de période très ancienne, il y a plus de 5 ou 6 siècles, on s'arrange pour faire des reconstructions idéologiques qui nous conviennent.
Oui, je pense que c'est pas uniquement le cas en Inde, je pense que c'est le cas un peu partout. Même dans les choix qu'on fait, par exemple, disons, alors quand on dit ceci plutôt que cela sont nos ancêtres, c'est aussi un choix. Hein. C'est pas en cherchant dans l'ADN qu'on fait ces décisions, ce sont des choix politiques.
Alors, vous faites vos études supérieures à la Delhi School of Economics, dont vous vantez les mérites, même si aujourd'hui elle est économiquement appauvrie. Vous finissez par obtenir, non sans difficulté, de la bureaucratie indienne des bourses pour aller travailler sur les échanges eurasiatiques dans les archives européennes, et vous commencez aux Pays-Bas. Et là, dites-vous, j'ai saisi à quoi ça ressemble d'être calviniste.
Oui, si vous passez un hiver comme l'hiver de 84, très très froid, à la haie, balayé par les vents venant de la mer du Nord, alors oui, c'est pas une vie, disons, très joyeuse. C'est loin de Paris en avril ou New Delhi au mois de septembre.
Après, c'est Lisbonne. Et là, au bout d'un moment, c'est l'enchantement.
Pour moi, c'est à partir de Portugal que j'ai vraiment commencé à aborder l'Europe. Donc, pour moi, en fait, l'Europe en général, c'est quelque chose pendant un certain temps que je voyais toujours avec des yeux portugais, même Paris.
Alors avant de venir à Paris, approfondissons l'expérience lisboète, parce que c'est une époque importante pour la politique du Portugal, c'est l'époque de la stabilisation du régime, issue de la révolution des œillets, c'est le temps du président Janus.
Janus. Mmh.
Ah, vous prononcez maintenant très très bien le portugais. Hein. Et c'est le temps du déclin des leaders historiques du 25 avril, à commencer par le capitaine Otelio de Carvalho.
Otelio de Carvalho, condamné à 15 ans de prison dans une indifférence quasi générale, incarne la révolution des œillets. Le 25 avril 1974, il conduisait les jeunes capitaines portugais contre la dictature de Salazar. Il lance l'autogestion, préside à la réforme agraire. Il est porté par la foule. Otelio est le héros du Portugal.
Le capitalisme n'a pas de patrie. Nous avons entrepris une lutte pour tenter de détruire le capitalisme dans notre pays. Nous voulons combler le fossé qu'il y a entre les riches et les pauvres.
Après 7 mois d'euphorie, Carvalho est écarté par les militaires modérés du lieutenant-colonel Yanesh. Otelio ne renonce pas, c'est un idéaliste. Il se présente à la première élection présidentielle. Il recueillera 16% des voix. Ce sera là sa seule percée électorale. Au présidentiel de 80, il ne récoltera que 4% des suffrages. Il est politiquement fini.
Vous souriez dans votre barbe que vous avez longue, Sanjay Subramaniam, parce que la distinction droite-gauche, vous avez commencé à le comprendre. Si vous ne l'aviez déjà compris en Inde, c'est très subtil au Portugal et en Europe.
Oui, parce que en effet, moi, j'avais quelques amis, disons, dans l'extrême gauche portugaise. Mais il y a aussi des gens qui ont, comment dirais-je, viré leur casaque assez facilement. Et vous savez qu'il y a quelque chose qui est assez frappant. C'était, en tout cas, dans les années 80, il y avait des gens qui appartenaient à des très très grandes familles de la grande bourgeoisie portugaise, et ils étaient, disons, un peu partout. S'il y avait un pouvoir à droite, ils étaient à droite. S'il y avait un pouvoir à gauche, ils étaient à gauche. Pour ces gens-là, l'idéologie était une préoccupation très centrale. Finalement, j'ai compris que c'était un peu artificiel, même si on s'entretuait dans les départements d'histoire en racontant que celui-ci était d'extrême droite et celui-ci était d'extrême gauche, etc. Mais c'était finalement, comme on m'a expliqué parfois, beaucoup plus une question de chapelle que d'idéologie.
Et quand vous passez à Paris, peu après, Paris que vous voyez comme une sorte de Lisbonne en grand, vous vous interrogez aussi sur l'héritage inaccompli de mai 68.
Oui, c'est vrai qu'autour de moi, à l'école des études en sciences sociales, mais aussi ailleurs, il y avait beaucoup de gens qui avaient dans leur passé quelque chose à voir, parfois des réalités, parfois des rêves à voir avec 68. Et donc, c'était toujours, il y avait des sous-entendus. Et ça m'a pris un certain temps pour comprendre ces choses. Mais finalement, je suis arrivé à comprendre, pas tout, mais un certain nombre de choses, je crois.
C'est-à-dire ?
Par exemple, cette espèce d'adoration envers ceux qu'on a tendance à dépeindre comme des bandits sociaux. Je parlais un peu de Mestrine ou même Beaujour.
Maupin.
On a toujours, pour moi, c'était des choses un peu absurdes, l'adoration qu'on vouait à ces gens. Surtout quand maintenant, quand M. Beaujour se refait en espèce de gourou qui donne des avis spirituels sur ceci, cela. Alors là, il faut rigoler, franchement.
Et puis, c'est les États-Unis. Il faut dire que votre connaissance du vaste monde qui a commencé par les disques.
Voilà, des disques, à la fois de la musique populaire et puis aussi de jazz.
Alors, en votre honneur, Sanjay Subramaniam, auteur de Leçons indiennes chez Alma, les débuts de compositeur de Miles Davis qui commence à se distinguer dans le groupe de Charlie Parker. C'est un enregistrement de 1947.
Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Sanjay Subramaniam, qui est le témoin de ce vendredi, grand historien indien, qui aurait pu être critique littéraire, musicien. Vous avez tâté d'un instrument?
Oui, mais mais c'était beaucoup plus... le niveau n'avait rien à voir avec les professionnels, oui. Non, j'ai manqué de talent pour la musique, il faut le dire.
C'est pour ça que vous n'avez pas été musicien, c'est pour ça que vous n'avez pas été critique littéraire au long cours, oui. Et que dans les universités américaines, vous arrivez en historien, vous vous jetez sur les bibliothèques. Michel Serres dit « Quand j'ai découvert la bibliothèque de Stanford, j'avais l'impression d'être un chat maigre devant un poulet rôti ».
Oui, non, mais ça c'est vrai que la plupart des Européens, quand ils viennent aux États-Unis, même dans une université, je dirais, moyenne, c'est certainement pas le cas de Stanford, qui était quand même une université de haute qualité, on est toujours étonné par cette richesse dans les bibliothèques et des bibliothèques dans lesquelles on peut se promener comme ça dans les rayons. Et ça a un effet tout à fait différent. Par rapport à là où il faut remplir les fichiers, des papiers pour faire venir des livres souvent perdus, comme c'était le cas à la BNF, etc.
Mais qu'est-ce que c'est que cette pique contre Stanford? C'est parce que vous êtes à UCLA, vous?
Oui, ça c'est une petite rivalité qui existe, parce que je me rappelle une fois, on avait essayé d'embaucher quelqu'un de Stanford qui est venu regarder nos bureaux et il a dit « Non, mais ça c'est l'université publique ».
Ça veut dire l'université pauvre.
L'université pauvre et qu'il n'y avait pas les boiseries, etc. qu'il y avait dans son bureau à Stanford. Donc voilà.
Dites-moi les embauches. Vous racontez un job telk dans une université américaine que vous ne citez pas. Il y a un jeune candidat formé au Royaume-Uni et qui arrive dans une journée de sélection.
Oui, mais ça c'est drôle parce que j'ai parlé de ça maintes fois avec, par exemple, des jeunes collègues français. Les conventions sont tout à fait différentes. Parce que quand on fait ça aux États-Unis, on est invité et on vous donne à boire et à manger. Vous êtes invité dans des restaurants. Vous avez l'impression d'être un peu le chouchou de tout le monde. Et ça n'a rien à voir avec une situation où on est dépêché en 30 minutes par une commission de CNRS. Mais en même temps, derrière tout cela, il y a aussi des enjeux, même des pièges. Donc c'est un peu ça que j'ai essayé de décrire dans ce.
Mais la qualité du repas qu'on vous offre dépend des chances que vous avez d'être sélectionné.
Et de votre statut. Donc vous voyez, si vous êtes un junior, le repas risque d'être dans un restaurant, disons, sans étoile de Michelin.
Un jour, si vous avez le temps, vous ferez une ethnographie systématique des milieux universitaires?
Pas systématique, mais à ma façon. Et moi, je dirais plutôt autobiographique que systématique.
Et vous pourrez comparer le système français et le système américain. Nous sommes encore, je suis désolé, à Stanford, parce que Bernard Pivot nous y a précédé dans un célèbre numéro d'Apostrophe avec Michel Serres, puis René Girard.
Ce qui caractérise le français, c'est l'esprit critique. Et ce qui caractérise l'américain, c'est l'esprit positif. Je dirais volontiers que l'Amérique est un pays de la bonne volonté et la France est un pays de l'esprit critique. De sorte que, dans l'enseignement, un professeur français dira le plus souvent la critique à son étudiant, ce qui ne va pas.
Oui.
Et un professeur américain dira volontiers « tu es bon, tu peux réussir » et il le tire vers l'autre. L'un le pousse et l'autre le tire. Et après 20 ans d'enseignement dans les deux pays, je m'aperçois que c'est peut-être ce qui caractérise le plus... la différence entre les deux.
Mais qu'est-ce que tu préfères?
À première vue, le plus intéressant, c'est de tirer l'étudiant vers son meilleur. Mais il y a aussi, dans la critique systématique, une sorte de volonté exaspérée de perfection. Mm-hmm. La technique française est presque plus élitiste. On en tire moins, mais ils sont peut-être plus excellents, tu vois, parce qu'ils sont plus sculptés par la critique.
Ici, il y a quelque chose de plus dur.
C'est vrai que les étudiants notent le cours des professeurs.
Oui, à la fin du trimestre, nous leur donnons des feuilles, des formulaires qu'ils remplissent, où ils vous donnent des notes, et ils nous notent exactement comme nous les notons, ils sont plus sévères d'ailleurs.
Et l'administration tient compte de leurs notes?
Oui et non, à mon stade, elle ne peut plus en tenir compte.
Personne oui, mais pour un jeune professeur, oui.
Pour un jeune professeur, ça peut être très grave, et ça peut être très mauvais, à mon avis, parce que ça crée des complexes, des traumatismes. Ouais. Et surtout, ça peut créer de la démagogie.
Sanjay Subramaniam, on fait la même chose à Sciences Po à Paris maintenant, et dans d'autres établissements français.
Oui.
On évalue.
Oui, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, à condition que ça ne devienne pas une espèce de polémique personnelle entre celui qui a reçu une mauvaise note et donc par la suite il n'aime pas votre barbe ou votre veste. Parce qu'il y a aussi des commentaires sur ce genre de choses. Par exemple, en racontant que, par exemple, que je parle l'anglais avec un accent incompréhensible, des choses comme ça. Mais ce que me frappe aussi, je suis pas en désaccord avec un certain nombre des annoncés, mais je trouve que c'est aussi curieux de voir que l'étudiant américain est prêt à s'engager. Il parle beaucoup plus dans les séminaires. L'étudiant typique à Paris est très timide. Et donc, le professeur est obligé de travailler beaucoup plus parce que dans un séminaire, les autres ont tendance d'écouter plutôt que de parler.
Dites-moi, vous êtes professeur associé au Collège de France, vous avez gardé un pied à UCLA, en Californie, et pourtant vous racontez dans votre livre Leçon indienne qu'on ne vous a pas donné le poste de direction des études indiennes à UCLA, parce que vous n'étiez pas assez indien.
Non, on me l'a donné, mais...
On vous l'a donné, finalement, mais ça a été difficile, expliquez-vous.
On a hésité, justement, parce que là, il y avait l'interférence des membres de la communauté indienne installée à Californie, et ce n'était pas un problème avec l'université, c'était l'interférence, en fait, de ces Indiens qui ont trouvé que je n'étais pas assez indien, oui.
Trop occidental, etc. Enfin, vous êtes habitué à ce genre de reproches. On peut dire que l'essentiel des études d'histoire indienne se déroule hors d'Inde maintenant, un peu en France, un peu au Royaume-Uni, beaucoup aux États-Unis.
Je ne dirais pas l'essentiel, mais je dirais, parce que c'est vrai que depuis 30 ans, la situation institutionnelle en Inde n'est pas joyeuse. Parce que c'est un peu comme on voit ici aussi, c'est-à-dire l'État, qui était le patron principal des universités, a tendance de plus en plus à se retirer. Et c'est très difficile de trouver des mécènes qui sont prêts à financer des études, par exemple, sur l'histoire ou l'anthropologie. Pour, disons, l'informatique, oui. Ou même pour former des avocats, ou des choses comme ça, des choses qui sont considérées comme plus rentables ou plus adaptées à l'économie actuelle.
À tel point que, quand votre femme, qui est française, vous questionne et vous demande, il y a un bon livre sur l'histoire de l'Inde depuis 1947, fait par un Indien, ben vous avez du mal
oui.
à lui donner des indications. Il y en a deux, quoi.
Mais en fait, je dirais qu'il n'y a pas tant même écrit par des non-indiens.
Ouais.
Mais oui, c'est vrai que ce n'est pas été un grand sujet. Depuis peu de temps, en fait, maintenant, on commence à écrire des choses.
Parce que longtemps, on a écrit, il y a le bon prince, le pandit Nehru, il y a sa fille. Vous l'aimez pas, sa fille, hein, Indira.
Je ne suis pas le seul.
Sournoise, corrompue, autoritaire, pseudo-socialiste. Oui. Et puis après, il y a un petit prince plein de bonnes intentions, mais faible. Ça ressemble à une histoire dynastique en France.
Voilà, c'est ça, même une histoire dynastique écrite il y a fort longtemps, oui.
Par un académicien français, quoi.
Oui, ouais. Voilà.
Et il faudrait faire de l'histoire sociale.
Voilà, c'est ça que j'essaie aussi d'expliquer dans un des comptes rendus que j'ai fait, qui est d'un livre de quelqu'un que, d'ailleurs que je connais assez bien, Ramachandra Guha, L'Inde après Gandhi. Mais dans ce livre, il a essayé quand même de faire une histoire, mais à mon avis, ça reste trop une histoire politique centrée sur les grands hommes et quelques grandes femmes.
Alors, il faudrait faire une histoire sociale, s'occuper pas seulement des élites, mais d'un peu tous les Indiens, à partir de sources qui ne soient pas seulement en langue anglaise. Et on s'apercevrait que les écarts régionaux, les écarts sociaux, eh ben, ils demeurent. Je voulais juste ouvrir un dossier, comme vous le faites dans un des chapitres de Leçons indiennes. C'est celui des domestiques qui vous intéresse beaucoup et qui polarise la littérature, les journalistes occidentaux aussi. C'est encore le reportage d'Edouard Baird de Sainte-Colonne en 1966 à Calcutta avec la femme d'un grand avocat.
Nous avons 11 domestiques.
Pouvez-vous me les énumérer ?
C'est-à-dire, il y a 3 bearers, 2 valets de chambre.
Oui.
Il y a ma femme de chambre, mon aïa. Il y a un jamadar. C'est lui qui lave les parterres, les égouts, les lavabos. Parce que les autres domestiques ne veulent pas toucher tout ça.
Parce qu'ils sont de caste supérieure.
Voilà, ils disent que ce n'est pas leur business. Il y a 2 chauffeurs. Il y a un gardien, le chokidar, on appelle. Il y a un jardinier, un mali.
Est-ce que c'est nécessaire vraiment d'avoir tant de domestiques?
C'est-à-dire oui, puisque personne ne veut faire le travail de l'autre. Il dit carrément, madame, ce n'est pas mon travail.
Combien gagne-t-il?
Oh, ils gagnent très peu en rapport de ce que vous payez, par exemple, en Europe. Mais nous payons 92 roupies par mois. Évidemment, le petit déjeuner, les thés et tout ça, c'est moi qui paye. Et je les donne des supplémentaires quand il y a un parti, quand cela me plaît.
Ils vivent où ?
Ils vivent chez nous, c'est-à-dire il y a des chambres dans la propriété.
Et leur famille n'est pas là ?
Non. Nous préférons les avoir sans les familles et ils vont une fois par an ou une fois tous les 10 ans voir leur famille dans les villages.
Est-ce que c'est difficile d'avoir des domestiques, de trouver le bon domestique à Calcutta ?
Oui, ma foi, je crois que les étrangers ont gâté les domestiques.
C'était plus facile du temps des Anglais.
Oui, les Anglais avaient quand même une bonne manière. Ils étaient sévères et à la fois très gentils avec leurs domestiques.
Bon, alors nous autres, auditeurs, réalisateurs, nous sommes choqués d'entendre ça. Et un Indien ?
Non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui appartient à une très très grande famille bourgeoise. Parce qu'avec cette espèce de train de vie, non, il n'y avait pas grand monde, même dans les années 50-60, qui pouvait vivre comme ça. Mais il y a quelque chose qui semble tout à fait vrai dans ces attitudes, c'est-à-dire ces gens-là n'ont pas droit à une vie privée, et il ne faut pas qu'ils restent avec leur famille, etc., etc. Il faut être sévère, mais juste, etc., avec eux. Et même l'idéalisation des Anglais, comment eux, ils traitaient leur domestique. Ça, malheureusement, il faut dire que même aujourd'hui, on peut entendre ce genre de discours.
Mais le gouvernement, vous êtes une famille de fonctionnaires, donne, quand il accorde des logements de fonction aux fonctionnaires, des espaces réservés aux domestiques.
Tout à fait, oui. En fonction de niveau de la personne, c'est-à-dire si vous êtes petit fonctionnaire, vous avez peut-être place pour une personne et puis vous grimpez dans les échelons, plus vous avez de place. Mais ça existe toujours, oui.
Un jour, quand vous ferez encore davantage d'histoire sociale de l'Inde, vous parlerez peut-être des domestiques de votre famille, Sanjay Subramaniam. Mais il y a cette question assez drôle que vous posez, restituant un dialogue entre deux universitaires. Les subalternes peuvent-ils parler ? Et alors, les autres répondent
mais est-ce que les élites ou les bourgeois peuvent écouter ? C'est ça le problème. Et voilà, donc, ça, c'est une phrase que j'ai prise de quelqu'un de grande renommée qui est aux États-Unis aujourd'hui. Mais en fait, c'est devenu une espèce de phrase centrale pour tout un courant des études postcoloniales.
Merci à vous, Sanjay Subramaniam. Votre livre « Itinéraire d'un historien, leçon indienne », c'est aux éditions Alma. Éditions qui vous sont fidèles, auxquelles vous êtes fidèles, puisque vous y publiez une histoire connectée des cours d'Europe et d'Asie entre 1500 et 1700. C'est votre dernier livre traduit en français. L'émission a été réalisée par Jacques Sigal, préparée par Ilinka Negulesco, Franck Oliva, Frédéric Martin, Elisabeth Jacquineau et à la technique Antoine Fortin.